Lizzie présente et les vivants autour de Barbara Abel. Lue par Camille Lamache. Le fait le plus incroyable de cette histoire est inspiré d'un fait divers réel. Tout le reste n'est que pure imagination. Pour mes enfants, Lou et Gabriel, parce que vous êtes mes vivants autour et que mon cœur ne cessera jamais de battre pour vous. Prologue. Gilbert referme doucement la porte derrière lui. Il s'avance de quelques pas vers le centre de la pièce, retenant son souffle comme s'il cherchait à dissimuler sa présence. L'obscurité l'empêche de distinguer les contours de cette chambre, dont il connaît pourtant les proportions par cœur. Normal, elle servait autrefois de salle de jeu, et même s'il n'y faisait que de rares incursions, il en garde un souvenir très précis. Il se rappelle parfaitement le vieux canapé dans lequel ses filles se vautraient pour lire leurs bandes dessinées, les étagères surchargées de jeux et de livres, la table qui leur servait de bureau pour faire leurs devoirs, des bricolages ou du dessin. Aujourd'hui, cette pièce est vide. Une fois les filles devenues grandes, après leur départ de la maison, Micheline a voulu en faire son atelier, une salle dans laquelle elle pourrait s'adonner à quelques loisirs, à présent qu'elle avait un peu de temps pour elle, couture ou peinture, elle ne savait pas encore très bien. Elle l'a vidée de tout ce qu'elle contenait. Elle a fait repeindre les murs, changer les tentures. Puis, elle n'y a plus jamais remis les pieds. Depuis lors, plus personne n'y va. Gilbert s'immobilise et regarde autour de lui. Ses yeux s'habituent à la pénombre. Il perçoit maintenant le seul meuble qui garnit la chambre, là, légèrement sur sa droite, comme remisé contre le mur du fond. Un vieux lit d'hôpital dont la structure métallique délabrée est surmontée d'une potence rongée par la rouille. La présence de ce lit lui glace le sang. Pourtant, c'est précisément pour lui qu'il est entré dans cette pièce. Enfin, pour lui. Le lit en lui-même, il s'en fout, même si, dans son souvenir, il était moins décrépit. C'est pour la personne couchée dedans qu'il est venu ici. Un corps immobile dont il distingue la silhouette tout entière recouverte d'un drap. Il retient sa respiration, déglutit avec difficulté, rassemble son courage. Lorsqu'il se remet en marche, il serre les poings comme pour endiguer la tension qui contracte ses muscles. Parvenu au pied du lit, il contemple la forme inerte, se laissant quelques secondes supplémentaires pour affronter la réalité. Il tend ensuite la main vers le drap, au niveau de la tête. Ses doigts tremblent, sa gorge s'assèche, son cœur tambourine dans sa poitrine. Il prend alors une grande inspiration, puis, au prix d'un immense effort, saisit un pan du tissu et le rabat sur les épaules du corps couché là. Il met un peu de temps à reconnaître la jeune femme aux traits émaciés qui se découvre à lui. Son teint est d'une pâleur cadavérique, des cernes profonds creusent ses paupières. Ses lèvres entrouvertes sont sèches, virant au gris, presque exsangues. Ses joues ne sont plus qu'un tissu de peau épousant la forme des os de sa figure. Cette vision d'horreur lui perfore les poumons, le vidant instantanément de son souffle. Il ne peut détourner les yeux de ce visage qu'il connaît si bien et que, pourtant, il peine à identifier. Seigneur, qu'a-t-il fait ? Au moment où il puise en lui ses dernières forces pour s'arracher à ce cauchemar, la jeune femme ouvre les yeux et darde sur lui un regard halluciné. Gilbert sursaute malgré lui, cherchant à expulser un cri de terreur qui meurt au fond de sa gorge dans un pitoyable gargouillis. Il voudrait prendre ses jambes à son cou, mais la peur le paralyse. Il parvient à reculer d'un pas, le geste bafouillant, secoué de spasmes, manque de trébucher, se retient in extremis à la structure du lit. Une main glacée le saisit au poignet, lui arrachant cette fois un hurlement d'effroi. La jeune femme s'est redressée dans une posture improbable, le corps tendu dans un axe oblique. Comment est-il possible de maintenir cette inclinaison sans défaillir? Comment un être si famélique peut-il dégager une telle impression de force? Elle le regarde toujours, et ses yeux fiévreux lui brûlent la rétine, le foudroient sur place, le transpercent jusqu'au cœur de sa conscience.
« Libère-moi, je t'en supplie !»
articule-t-elle dans un souffle rauque.
« Laisse-moi partir !»
Tétanisée, Gilbert tente piteusement de se dégager, mais l'épouvante a pris le contrôle de ses pensées, de ses intentions, de sa volonté. Il ne peut plus faire le moindre geste, désormais otage de sa propre folie.
« Je t'en conjure, laisse-moi partir !»
répète encore une fois la jeune femme à l'agonie.
« S'il te plaît, papa !»
Gilbert se réveille en sursaut, en sueur, en apnée. Il se redresse brutalement dans son lit, le souffle court, tremblant de tous ses membres. Sans doute même a-t-il poussé un cri car, à côté de lui, Micheline se retourne, surprise, visiblement arrachée à son sommeil.
« Ça va ? »
demande-t-elle d'une voix pâteuse. Gilbert met quelques secondes à reprendre pied dans la réalité. La chambre est plongée dans l'obscurité. L'espace d'un instant, il se croit encore dans la salle de jeu, peut-être même dans le lit d'hôpital, à la place de ce corps monstrueux.
« Gilbert ! »
s'inquiète une nouvelle fois Micheline.
« Tu vas bien ?»« Un cauchemar !»
se contente-t-il d'expliquer. Sa respiration retrouve peu à peu un rythme plus régulier. Il déglutit, se passe une main moite sur le visage, avant de répéter sans cacher son trouble.
Un horrible cauchemar.
Tout corps traîne son ombre et tout esprit son doute. Victor Hugo. Chapitre 1.
Bonjour, ma chérie. Comment tu te sens aujourd'hui ?
Sans attendre de réponse, Micheline referme la porte derrière elle, dépose un sac sur la chaise placée contre le mur, à droite, se dirige ensuite vers la fenêtre, dont elle tire le store d'un geste énergique. La lumière du jour inonde aussitôt la chambre d'hôpital.
« C'est incroyable !» vitupère-t-elle. « On dirait qu'ils sont incapables de tirer des stores dans ce service. Je leur ai pourtant demandé 100 fois de ne pas te laisser dans le noir. »
Elle se débarrasse de sa veste sur le dossier du fauteuil, puis retourne chercher le sac sur la chaise. Elle l'ouvre, en sort un paquet, le déballe.
« Je t'ai acheté une nouvelle chemise de nuit. Madame Strubois l'a modifiée comme il faut. Je t'ai aussi acheté une nouvelle brosse et j'ai pris rendez-vous avec le coiffeur. Il m'a promis de passer dans la semaine. »
Micheline déplie la chemise de nuit, qu'elle présente rapidement à la jeune femme alitée. L'habit a ceci de particulier qu'il est ouvert dans le dos, à la manière d'un tablier. Elle lui expose l'avant, puis l'arrière. On dirait un représentant de commerce, admirer les finitions, apprécier la qualité du tissu.
« Ça te plaît ?»
Toujours sans escompter la moindre réaction, elle pose le vêtement sur le lit et entreprend de déshabiller la patiente. L'opération n'est pas simple. Les tuyaux qui la relient aux machines l'obligent à procéder par étapes. Soulever la jeune femme, lui caler 2 oreillers dans le dos, la reposer en douceur, la dévêtir, faire passer les poches de liquide médicamenteux dans les manches tout en maintenant les perfusions en place, recommencer dans l'autre sens avec la nouvelle chemise de nuit, les poches d'abord, les bras ensuite. Micheline s'affaire. Ses gestes sont précis et résolus, d'une efficacité absolue. Chaque mouvement a son utilité. Il s'enchaîne dans un ballet parfaitement rodé, sans la moindre hésitation. Elle pourrait les accomplir les yeux fermés.
« Papa m'a chargé de te prévenir qu'il passera dans l'après-midi. Enfin, tu le connais, ça veut dire plutôt en fin de journée. Il a un déjeuner important, un client autrichien ou australien, je ne sais plus. »
Tout en parlant, elle achève de vêtir la jeune femme, ajuste le col, tire sur la manche gauche, lisse un faux pli. Voilà, parfait.
« Tu es toute belle !»
commande-t-elle en reculant d'un pas. Elle la contemple un moment, pince les lèvres, laisse échapper un bref soupir.
« J'aurais peut-être dû prendre la beige. J'ai hésité et puis il m'a semblé que la bleue mettrait ton teint en valeur. Mais peut-être que... »
Elle s'interrompt, secoue la tête comme si elle chassait un mauvais esprit.